Théologie naturelle par le Père Philippe à Saint-Joseph, le 6 juin 85.
Nous allons continuer ce regard de sagesse, n'oublions pas. Donc c'est le regard ultime, contemplatif du philosophe. On est dans une sagesse acquise, philosophique. Il faut la maintenir à tout prix, hein. Même si très peu arrivent à cela. C'est en dehors du marché. Ça, c'est évident. Mais c'est pas parce que c'est en dehors du marché que ça n'existe pas. La métaphysique n'est pas le lieu du trafic. C'est au contraire le lieu de la recherche de la vérité, donc on doit aller le plus loin possible dans l'ordre de la vérité. Je vous avais montré la dernière fois comment, dans une vision de sagesse, à partir de l'acte créateur de Dieu, nous nous posions la question du pourquoi du monde physique. Le pourquoi de cette création d'être physique impliquant la matière. Au sens tout à fait strict, la materia, la matière prise au plan philosophique, hein, n'est pas créée, elle est concrée, comme dit saint Thomas. C'est-à-dire qu'elle est créée toujours avec une forme. Dieu n'a pas créé une matière en pure puissance. Ce serait contradictoire. On crée des réalités qui existent, donc qui impliquent une forme. La materia prima, c'est l'intelligence qui la précise et qui précise que nous la connaissons analogiquement. Vous n'avez pas une connaissance directe de la matière pure, de la materia prima. Vous la saisissez comme une cause, comme un principe, ce au-delà de quoi je ne puis pas aller, dans l'ordre du devenir physique. Le devenir physique implique cette indétermination radicale qui est la matière prima. Je puis me poser la question, et je dois me poser la question, dans une vision de sagesse, pourquoi ce monde physique? C'est vrai, à première vue, c'est un certain scandale qu'un être pur, qu'un esprit pur, qu'une intelligence subsistante crée un monde physique. Je sais bien que la sagesse joue. Alors, comme les gosses qui aiment de jouer, la sagesse joue. Mais quand elle joue toujours comme la sagesse. C'est-à-dire que c'est un jeu divin, c'est un jeu d'une souveraine sagesse. Et la sagesse ne peut pas jouer comme un artiste qui jouerait en disant « j'aime faire des croquis, j'aime de faire des choses qui sont des caricatures ». La sagesse divine joue toujours en impliquant la finalité, puisqu'elle joue pour la gloire de la propre sagesse divine. Donc il y a toujours une finalité. Je dois donc me poser la question, pourquoi un pur esprit crée la matière? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Comment se fait-il qu'un pur esprit puisse créer un monde matériel? Et c'est vrai, à première vue, c'est un peu un scandale. Que l'esprit crée des esprits, c'est normal. Et que Dieu réalise son chef-d'œuvre à partir de la matière. Que Dieu crée son chef-d'œuvre à partir de la matière, c'est-à-dire en unissant l'esprit et la matière. C'est ce qu'il fait pour l'homme. Il unit l'esprit et la matière. Alors pourquoi? C'est pas premièrement pour l'esprit, c'est-à-dire pas premièrement, disons, pour l'intelligence. L'intelligence est alourdie par le conditionnement de la matière. Pour l'intelligence, la matière est toujours un peu, entre guillemets, un sépulcre. Une pierre tombale, à la manière dont parle Platon. C'est vrai. pour l'intelligence. C'est pas drôle pour l'intelligence de mendier son bien par le point de vue de la sensation. C'est pas drôle pour une intelligence d'être une intelligence abstractive. C'est pas drôle du tout d'être une intelligence abstractive, d'être une intelligence qui est obligée de marcher à quatre pattes, c'est-à-dire de raisonner, d'abstraire. L'intelligence veut saisir et pénétrer toujours plus loin. Or, notre intelligence, parce qu'elle est liée à la matière, parce qu'elle est liée au, par le point de vue du corps, elle est liée à la matière, elle est liée à la sensation. C'est une intelligence qui devient. Le devenir, d'une certaine manière, répugne à l'intelligence. D'une certaine manière. C'est pas contradictoire, mais ça répugne à l'intelligence. Parce que l'intelligence veut saisir ce qui est au-delà du devenir. L'intelligence veut saisir quelque chose qui est. L'intelligence est faite pour l'être et pas pour le devenir. L'intelligence doit accepter le devenir à cause de son lien avec le point de vue de la sensation, avec le point de vue de l'image. Alors elle doit accepter d'avoir une démarche lente. Elle doit accepter cette opacité de l'image, cette opacité de l'imaginaire, cette opacité de la sensation. Elle doit accepter ça. C'est tout le conditionnement de notre vie intellectuelle. Et tout le conditionnement de notre vie intellectuelle fait que nous sommes lentement intelligents. Nous devenons intelligents. C'est très beau parce qu'il y a toujours une promesse. Hein. On peut progresser indéfiniment dans l'ordre de l'intelligence. On ne peut jamais dire, maintenant j'ai atteint un palier, un sommet. Non. Le vieux philosophe disait qu'on devenait métaphysicien à 45 ans. Ce qui prouvait que c'était lent. Parce qu'avant, les passions étaient un peu trop vives. Hein. Alors quand les passions sont trop vives, l'imaginaire fait qu'il y a une tempête dans le lac. Et alors il y a tellement d'agitation que c'est très difficile d'être intelligent. Elle se laisse emporter par tous les cyclones internes. Oui. Et c'est vrai, ça, il faut le reconnaître. Quand vous êtes très agité, vous ne pouvez pas penser. Il faut attendre un tout petit peu que ça repose. Donc il y a un devenir dans l'intelligence à cause de la matière. Pourquoi le Créateur, dans sa sagesse, a voulu unir l'esprit et la matière? Ce n'est pas à cause de l'intelligence. Est-ce à cause de l'amour? Alors je dirais oui, c'est à cause de l'amour. Alors ici, essayons de comprendre. Par le point de vue de la matière, Dieu peut permettre à la vie participer, c'est-à-dire un vivant créé, de devenir source de vie. Dieu peut permettre à un être créé non seulement d'être vivant, mais de devenir lui-même source de vie. Si Dieu n'avait créé que des esprits séparés de la matière, ce que nous appelons des anges, selon notre tradition chrétienne. Si Dieu n'avait créé que des anges, que des esprits, il n'aurait pas pu faire que la créature devienne source de vie. Il fallait l'infiniment petit. Il fallait la précarité de la matière. Il fallait la potentialité radicale et substantielle de la matière pour que la créature puisse devenir source de vie. C'est ça qu'il faut essayer de saisir, hein, dans une vision de sagesse. Donc de comprendre d'abord qu'un esprit créé ne peut pas être source d'un autre esprit créé. Ça, nous le verrons mieux en regardant l'autre jugement de sagesse par rapport à la création de l'esprit. On peut simplement ici voir négativement. Un pur esprit ne peut pas être source d'un autre esprit. Il ne peut pas être cause vitale d'un autre esprit. Pourquoi ? Parce que l'esprit, dans ce qu'il a de plus profond, est fait pour l'être. Il atteint ce qui est en tant qu'être. Et sa propre fin, c'est de pouvoir rejoindre le Créateur. Donc, il a une finalité personnelle qui achève ce qu'il a en lui de potentiel. Il a une finalité qui lui est propre et personnelle. À ce point de vue-là, il peut être parfait. Peut-il, à partir de cette perfection, devenir source de vie pour un autre esprit ? Je dis non. Parce que la communication de l'être relève directement de Dieu. Or, dans l'esprit, l'être et l'esprit sont liés substantiellement. Si l'être et l'esprit sont liés substantiellement, un esprit créé, ne pouvant pas créer, ne peut pas être source d'un autre esprit. C'est le lien direct entre l'esprit et l'être qui nous montre l'impossibilité métaphysique, dans une vision de sagesse, de dire qu'un esprit créé peut être source d'un autre esprit. C'est ce lien qui existe entre l'esprit et l'être. L'esprit est substantiellement lié à l'être. C'est ça qui est très très mystérieux. Que la créature ne puisse pas communiquer l'être, on comprend très bien ça, dès qu'on a regardé le problème de la création. On a vu que la création ne pouvait pas se servir de cause instrumentale. Que la création était le don de l'être, et pour pouvoir donner l'être, il faut être l'ipsum esse subsistens, il faut être l'être subsistant. Autrement, on ne peut pas donner l'être. On ne peut pas être source d'être. Bon, si on n'est pas l'ipsum esse subsistens, c'est-à-dire si on n'est pas l'être premier, on ne peut pas être source d'être. Un être qui est totalement dépendant dans son être, comme l'être créé, un être qui est totalement relatif à l'autre dans son être, ne peut pas être cause d'être. Un esprit peut agir au niveau artistique, mais il ne peut pas créer, pas donner l'être. Ceci, nous l'avions vu à propos de la création. Et c'est en regardant ce que représente le mystère de la création, et je dis bien le mystère de la création, on peut en dire quelque chose, mais ça reste toujours pour nous quelque chose de mystérieux, puisque nous n'avons pas l'intuition de l'être, et que nous n'avons pas l'expérience de l'être participé. Donc nous comprenons et nous pouvons affirmer au plan métaphysique, philosophie première, que seul l'ipsum esse subsistens que seul l'être qui subsiste en lui-même, qui est premier dans son essai, peut être source d'être. Et que tout être qui est un être participé ne peut pas être source d'être puisqu'il est second. Dans son être. Et qu'il dépend dans son être. Et qu'il ne peut pas être cause instrumentale de l'être. Puisque Dieu, comme créateur, ne peut pas se servir de cause instrumentale. Dieu ne peut pas se servir de moi pour être source d'être pour un autre. Il ne peut pas se servir d'un ange pour être cause instrumentale d'un autre être. C'est métaphysiquement impossible. Pourquoi ? Parce que la communication de l'être est quelque chose de premier. Donc, elle ne supporte aucune causalité instrumentale. Donc, ceci, il faut le saisir au niveau métaphysique. Une fois que j'ai bien compris ça, si Dieu, dans sa sagesse, veut qu'une créature soit source de vie, il faut que cette créature soit liée à la matière. Pour qu'une créature soit source de vie, il faut que cette créature soit liée à la matière. Le vivant biologique, si fragile et si faible qu'il soit, peut être source d'un autre vivant. Et pour qu'il soit conscient d'être source d'un vivant, il faut que ce vivant lié à la matière soit esprit. C'est l'invention de l'homme. Il est à la fois vivant biologique, capable par le fait même d'être source d'autres vies, et conscient de cela par son esprit. Oui. Si Dieu, dans son projet de créateur, veut qu'une créature soit source de vie, il faut que cette créature soit liée à la matière. Alors c'est ça que nous allons essayer de comprendre. Grâce à la matière, qui est une potentialité radicale, il peut y avoir ce contact radical d'un être créé avec un autre être qui provient de lui. Communication de la vie. Vous savez bien, je vous ai déjà dit ça, Maître Eckhart dit ça d'une façon extraordinairement forte quand il commente la Genèse. Dieu crée des existants, Dieu ne crée pas la vie. Je crois que tout est là. Il s'agit de bien le comprendre, ne dit pas ça dans un sermon, parce qu'alors à ce moment-là, tout le monde hurlerait. N'est-ce pas ? On dirait, voyez, ça c'est... On peut le dire au plan métaphysique, mais il faut faire attention. Alors il faut le mettre une étiquette rouge. Ça ne se traduit. Ça, pour l'extérieur, ça doit se traduire avec beaucoup de précautions. Mais Maître Eckhart, quand il dit ça, dit quelque chose de très juste. La création regarde la participation de l'essai. Dieu crée des êtres et parmi ces êtres, il crée des êtres auxquels il communiquera la vie. C'est la communication de la vie. Très curieuse. Mais la vie comme telle n'est pas créée. Elle est créée par l'intermédiaire de l'être créé. Je crois que c'est capital de faire cette distinction. C'est capital de faire cette distinction pour qu'il n'y ait pas de confusion, tout simplement. Vous comprenez que si Dieu crée des vivants, jamais un être vivant pourrait être cette source de vie. Puisqu'on reviendrait toujours à la création. Vous ne pouvez pas créer, vous. Moi non plus. Et la petite bête du bon Dieu non plus. La créature ne peut pas créer. C'est impossible. C'est un privilège unique de Dieu. Dieu seul est le créateur. Et c'est pour ça que toutes les traditions religieuses, quand ils parlent de l'être suprême, parlent toujours du créateur. C'est la qualité de l'être suprême. Il est créateur. Ce créateur qui est vivant, en lui l'être et la vie ne font qu'un, et en lui l'être et la vie et l'intelligence ne font qu'un, l'essé, l'intelligere et le vivere ne font qu'un. Cet être créateur peut, selon sa sagesse, vouloir réaliser des vivants qui soient source de vie. Et donc qui proclame par là que Dieu, quand il communique la vie, il est Père. Et non pas au sens strict, créateur. La distinction entre la paternité et l'aspect créateur est une distinction que les néoplatoniciens et qu'Aristote lui-même a faite. C'est très intéressant, ça. Le créateur, c'est le don premier de l'être, et le père, c'est la communication de la vie. C'est comme ça que vous pouvez comprendre la signification que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Aucune créature comme créature n'est créée à l'image du Créateur. Mais c'est en tant que Dieu est source de vie et qu'il est Père, alors qu'il peut créer des êtres semblables à lui. C'est le propre du Père, c'est le propre de la paternité, d'être source de vie. Puisque la vie présuppose l'être, la communication de la vie n'est donc jamais quelque chose de premier. Comment s'est fait cette communication de la vie? Je ne sais pas, et vous non plus. Et personne ne le saura jamais. Le savant va chercher indéfiniment quelle est la source de la vie. Il donnera les conditions pour que la vie apparaisse, mais ne dira pas comment s'est fait cette communication de la vie. Je peux dire, au point de vue philosophique, qu'il y a eu nécessairement une volonté première de Dieu, du Père, pour communiquer la vie. Ça, c'est impossible autrement. Dieu a voulu créer un monde physique, et il a voulu que dans ce monde physique, la vie apparaisse. Alors, le savant regarde les conditions de l'apparition de la vie. Mais le savant, comme tel, ne sait pas ce que c'est que la vie. Donc il ne peut pas parler du point de départ de la vie. Vous voyez ? Quand Mono cherche comment la vie est apparue dans notre univers, il recherche les conditions de l'apparition de la vie. Ce n'est pas autre chose. Les conditions. Et nous montre qu'il faut telle ou telle condition pour que la vie apparaisse. Et quand il dit que la source de la vie, c'est le hasard, là, il ne sait plus ce qu'il dit. Il ne parle ni en savant, ni en philosophe. Il parle comme quelqu'un qui devrait dire « je ne sais pas ». Et plutôt que de dire « je ne sais pas », on met le hasard. Très très joli, du reste, ça. C'est l'inverse des effacements de Dieu. C'est juste inverse. Hein. Un être intelligent, quand il ne sait plus, il dit « je ne sais plus là, je m'arrête là ». Il n'y a aucune honte de dire « je ne sais pas ». Tandis que quand il dit « le hasard », ça c'est très mal. Parce qu'il fait croire qu'il sait, alors qu'il ne sait pas. Le hasard ne peut pas être source de la vie, c'est loin impossible. Le hasard, si on parle du hasard au sens philosophique, ça ne peut pas être source de la vie, puisque la vie implique un ordre. Le vivant implique un ordre. Le vivant est quelque chose de plus ordonné que le monde physique. Si le vivant implique un ordre, il faut nécessairement qu'au point de départ de la vie, il y ait une intelligence et une sagesse. C'est impossible autrement. Le hasard n'est pas principe de l'ordre. L'imparfait n'est pas principe du parfait. Si je connais la métaphysique de la priorité de l'acte sur la puissance, Je dois donc dire nécessairement que la vie provient de la sagesse. Puisque la vie implique un ordre, et un ordre immanent. Et que plus le vivant est évolué, plus le vivant est parfait, plus l'ordre est intense. Et donc plus il exige une intelligence au point de départ. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie biologique apparaît à l'intérieur du monde physique, dans l'immanence du monde physique, comme une organisation nouvelle de ce monde physique, et que le monde physique ne rend pas compte de cette organisation plus parfaite que représente le vivant. Et donc, il exige nécessairement, dans une vision de sagesse, l'intervention de la sagesse du Créateur. Le Créateur a pensé la vie, a pensé le vivant. Et il a voulu qu'à tel moment apparaisse le vivant dans notre monde physique. Je ne sais pas quand. Et le savant ne le sait pas non plus. Il peut émettre des hypothèses, c'est très très bien, mais il ne peut pas le savoir. La vie est apparue, s'est manifestée dans notre monde physique. Et pour qu'elle puisse apparaître dans notre monde physique, il fallait telle ou telle condition. Ça, je peux le dire. C'est très intéressant, du reste, de le savoir. Mais je ne peux pas dire pourquoi la vie est apparue. Le savant ne peut pas. La finalité relève du philosophe dans une vision de sagesse. La vie est apparue dans notre monde physique pour qu'il y ait des êtres créés qui soient source de vie. Et pour que parmi ces êtres créés, source de vie, puisse apparaître un être intelligent, l'homme. Je peux dire, dans une vision philosophique de sagesse, que l'univers physique est pour l'univers du vivant et l'univers du vivant biologique est pour l'homme, pour l'esprit. Je peux découvrir cet ordre-là. Et au point de vue de la sagesse, il ne peut pas y avoir d'autre ordre. Esse vivere intelligere. C'est pas toujours ces trois grands ordres qu'il faut maintenir, qui sont étonnants, et que nous retrouvons, si nous sommes croyants, dans le prologue de Saint Jean. Esse vivere intelligere. C'est assez extraordinaire. C'est très très beau, du reste, de voir ça, dans une vision de sagesse. Dieu se sert de la matière pour que le vivant créé puisse être source de vie. Puisque la vie n'est pas première, elle présuppose l'être. Et dans le vivant de vie biologique, elle présuppose la matière. La vie n'a pas été communiquée ex nihilo. C'est pour ça que la vie n'est pas créée. Parce que ce qui est créé, c'est ex nihilo, c'est à partir de rien. Seul ce qui est, y compris la matière, est créé à partir de rien. Tandis que la vie apparaît à partir d'un être physique. Et dans l'immanence d'un être physique, comme quelque chose de nouveau, comme un nouveau principe d'organisation qui est le vivant. Puisque ce vivant présuppose le point de vue de la matière, il n'y a aucune impossibilité au niveau de la sagesse philosophique de dire que ce vivant puisse être source d'autres vies. Autrement dit, il est normal que le vivant soit fécond. La fécondité est liée à la vie biologique. Pourquoi ? Parce que dans la vie biologique, le poids de la matière fait que l'individu est corruptible. Et si l'individu est corruptible, pour que la vie puisse continuer, il faut que le vivant soit source d'autres vivants. Évidemment, ce n'était pas nécessaire. Dieu aurait pu très bien créer un autre univers. Hein ? Et chaque fois que le vivant individuel disparaisse, Dieu aurait pu de nouveau communiquer la vie. C'est la vision de Malebranche, hein ? Faut pas l'oublier. Malebranche, prêtre. Donc la vision ecclésiastique, si j'ose dire, au point de vue philosophique. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas que lui comme prêtre, philosophe, hein. Il y en a d'autres. Mais Saint Thomas est quand même philosophe. Mais Malebranche considère que c'est plus grand, c'est très curieux, c'est pour exalter la sagesse de Dieu que Malebranche dit ça, qu'il n'y a pas de véritable cause seconde. Et donc, que la fécondité, non. Non, il n'y a pas de cause seconde. Chaque fois qu'il y a un nouveau vivant, il faut nécessairement une intervention de Dieu. Il n'y a pas de continuité. On est devant la discontinuité. C'est-à-dire on est en présence de l'intervention du Dieu créateur pour chaque vivant. Et nous disons non, ceci est contraire à l'expérience. Selon l'expérience, nous voyons qu'un vivant est source de vie pour un autre vivant, si les conditions de transmission de la vie sont présentes. Le vivant créé est source d'une autre vie. Et nous comprenons que, au point de vue de la sagesse de Dieu, c'est plus grand pour la sagesse de Dieu de communiquer la vie de cette manière si parfaite que le vivant créé soit source d'autres vies, d'autres vivants, que si Dieu ne communiquait pas cela. Puisque par le point de vue de la fécondité, le vivant proclame la gloire de Dieu. Il montre que la vie n'est pas limitée, n'est pas, j'allais dire, vaincue par la matière, mais que la vie est victorieuse de la corruptibilité de la matière. Et que la vie étant victorieuse de la corruptibilité de la matière, il y a une espèce de gloire plus grande faite au Créateur. Autrement dit, on proclame la gloire du Père par la fécondité. Chaque fécondité dans le monde du vivant proclame la grandeur du Père et proclame qu'être Père, je ne dis pas que c'est plus que d'être créateur, mais c'est la paternité à l'intérieur de la création montre que Dieu veut aller plus loin dans la communication de la vie que d'être simplement créateur. Je crois que c'est ce que nous devons dire au point de vue du jugement de sagesse, vous voyez ? Nous devons comprendre qu'il y a là quelque chose de très particulier. Dieu qui veut que la créature soit source d'autres vies, et donc soit féconde. Alors je comprends, c'est une explication seconde, je comprends comment dans l'Écriture, chaque fois que Dieu crée un vivant, chaque fois que Dieu communique la vie à un vivant, il le bénit. Il y a une bénédiction de Dieu pour le point de vue de la fécondité. Pour bien nous faire comprendre qu'il y a là quelque chose de particulier qui rend gloire à Dieu par cette bénédiction de Dieu. Ceci fait comprendre aussi comment tous les vieux philosophes ont considéré le problème de la fécondité comme le signe de l'éternité dans notre monde physique, comme un vestige d'éternité. En réalité, ce n'est pas l'éternité, c'est un vestige d'éternité. C'est de montrer que le vivant a quelque chose de plus que l'être physique. L'être physique est dans un devenir perpétuel. Le vivant dure, c'est la durée. Et c'est là où il faudrait, voyez, au point de vue philosophique, assumer ce qu'il y a de si intéressant dans la vision de Bergson sur la durée. Je ne peux pas l'assumer en analyse philosophique, mais je peux l'assumer dans une vision de sagesse. Et dans une vision de sagesse, je peux dire que c'est très vrai, que ce qui caractérise le vivant, c'est qu'il dure, c'est la durée. Et plus le vivant est vivant, plus il a en lui cette capacité de durer. Et cette capacité de durer se fait par la fécondité. Puisque je sais qu'après moi, il y a un autre vivant qui va continuer. Alors que s'il n'y avait pas la fécondité, après moi, autrement dit le phénomène de la mort, serait un absolu. Le phénomène de la mort n'est pas un absolu grâce à la fécondité. Et la fécondité, c'est la victoire sur la mort. La victoire du vivant sur la mort. Si le vivant meurt, c'est à cause du monde physique. C'est parce qu'il est lié au monde physique. C'est parce qu'il est lié à la matière. Alors, voyez cette chose très curieuse. Hein, la matière à la fois explique la mort et la matière explique la possibilité de la fécondité. La matière explique directement la mort. C'est parce que je suis lié à la matière que je suis un être corruptible. C'est parce que je suis lié directement à la matière qu'il y a en moi une saveur de mort. Hein ? Ça, c'est extraordinaire. Il y a une saveur de mort en chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres corruptibles. C'est pas drôle du tout. Mais je sais qu'il y a en moi, en tant que vivant, une capacité de dépasser cette corruptibilité, d'être victorieux de cette corruptibilité. Et être victorieux de cette corruptibilité, c'est justement qu'il y a en moi une source de vie féconde. Et cette source de vie féconde me fait que je suis victorieux de la corruptibilité de la matière. Vous voyez, d'un côté, la matière est principe propre pour la corruptibilité. De l'autre côté, la matière est condition sine qua non. La matière n'explique pas la fécondité, mais elle permet la fécondité du vivant. Tandis que la matière explique la corruptibilité. C'est en ce sens-là que ce n'est pas contradictoire. La matière est ambivalente, vous voyez, ce qui est normal, hein. Puisque je ne la connais qu'une façon analogique. Donc je ne la connais jamais parfaitement. Et c'est pour ça que je peux dire que d'un côté, la matière est vraiment principe propre de corruptibilité, et de l'autre côté, elle est condition sine qua non de source de fécondité. C'est l'âme du vivant qui est source propre de fécondité. Mais cette fécondité ne peut exister que si cette âme est liée à la matière. Et donc si je suis en présence de la vie biologique. Vous voyez qu'ici va se poser un nouveau problème, très important à soulever. Le problème de l'évolution. Parce que le problème de l'évolution, c'est le problème propre du vivant biologique. Rostand l'a dit avec beaucoup de force, et je crois qu'il a eu tout à fait raison de le dire avec tant de force, que ce n'est qu'au niveau de la vie biologique que se pose le problème de l'évolution. Faites le petit chèvre hein, pour que vous voyez bien, étant donné la gravité de ce problème dans notre monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors, vous voyez la matière. Vous la voyez bien, cause matérielle. Cause matérielle substantielle. Provenelle. Vous voyez, là, dès qu'il y a vie, il y a un principe de vie. ce que j'appelle principe de vie au point de vue philosophique, c'est là. Principe propre et vivant. L'âme qui est forme substantielle de la matière. Et à partir de là, il y a le vivant. Ce vivant, grâce à l'âme, est victorieux de la matière. Il y a la durée. Propre du vivant, c'est de durer. Le propre de la matière, lié à la quantité, c'est de mettre l'opacité et le devenir. La matière est cause errante. Devenir. Hein? Toujours. Donc cause de corruptibilité. Le devenir radical, c'est la corruptibilité. Alors il y a perpétuellement ce tragique du vivant, si j'ose dire. Hein? Ce tragique métaphysique du vivant. Ce tragique métaphysique du vivant, c'est la victoire de l'âme sur la matière, et c'est la matière, principe de corruptibilité. Donc nous avons tous en nous un adversaire, si j'ose dire, hein, métaphoriquement, un adversaire par rapport à notre durée. C'est qu'il y a toujours en nous un principe matériel de corruptibilité. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des émergences de rhumes et de grippes et de cancers. Le cancer, c'est la cause errante. C'est pas étonnant qu'il y ait des cancers. C'est la cause errante qui l'emporte. Alors quand la cause errante l'emporte complètement, vous êtes dans l'anarchie. C'est l'anarchie à l'intérieur du vivant. C'est la cause matérielle qui l'emporte. Nous sommes radicalement des êtres anarchiques. Radicalement, par le bas. Nous sommes des êtres anarchiques. C'est pour ça que quand on est fatigué, on tombe dans l'anarchie. On ne peut pas être autrement. Et le signe d'une civilisation fatiguée, c'est l'anarchie. C'est une civilisation qui n'en peut plus. Alors elle se laisse. La cause errante l'emporte. La cause matérielle l'emporte. Il n'y a rien d'original. L'anarchie, ce n'est pas original. C'est la fatigue. C'est la cause errante. C'est la cause errante qui l'emporte. Elle est anarchique. Nous avons en nous un principe d'anarchie que nous devons caresser de temps en temps hein, pour le rendre un peu plus civilisé. Alors, il faut le caresser, il faut savoir qu'il est en nous. Parce que si vous croyez que vous ne l'avez pas, c'est l'astuce de la cause matérielle de se cacher. Et de croire que, oui, vous dominez pleinement la matière. Vous ne la dominez pas du tout, la matière. Vous la dominez par moment. Oui, quand vous êtes vraiment vivant, vous la dominez. Alors, la vie, c'est l'ordre. C'est pas l'anarchie, la vie. C'est l'ordre. C'est un ordre merveilleux. C'est un ordre étonnant. Vous voyez, les grands biologistes, hein, ils disent tout ça. Je vois très bien le professeur Marois, quand il me parle du vivant, il dit, mais je suis en admiration devant l'ordre. Et la victoire de l'ordre sur l'anarchie de la cause matérielle. Et c'est vrai, il y a une espèce de lutte permanente. C'est ça le tragique fondamental du vivant. C'est que le vivant doit durer, et pour durer, il y a la fécondité. Il y a un ordre merveilleux, et puis il y a la corruptibilité. Une corruptibilité qui est extraordinaire, qui est radicale, qui est fondamentale, qui est substantielle. Il ne faut pas l'oublier. Alors, nous voyons comment la fécondité apparaît et que la cause matérielle permet la fécondité, que le vivant soit cause seconde d'un autre vivant. Être cause seconde d'un autre vivant, est-ce que ça permet au vivant d'aller vers une perfection toujours plus grande? Le problème de l'évolution. Je crois que le problème de l'évolution, c'est à l'intérieur du tragique du vivant qu'il faut le voir. C'est une solution de répondre au tragique. Alors, est-ce que cette solution est vraie ou n'est pas vraie au point de vue philosophique? C'est très intéressant, ça. Et je crois qu'on doit le voir comme ça. C'est vraiment la victoire hein, du vivant. Le vivant est victorieux, non seulement par rapport à son espèce, non seulement par rapport à ses déterminations particulières. L'insecte, avant de mourir, il pond. Et grâce à ça, il continue de vivre. Il est victorieux. Il meurt étant victorieux. Le grain de blé doit mourir pour être fécond. Il meurt en étant fécond. C'est extraordinaire, ça. La fécondité inscrite à l'intérieur de la mort. La fécondité inscrite à l'intérieur de la corruptibilité. Et la corruptibilité permet la fécondité. Bon, ça, très bien. Est-ce que il y a dans le vivant une possibilité de dépasser ses propres déterminations de vivant? C'est-à-dire de passer de tel déterminisme à un autre. Passer ce qu'on dit vulgairement, hein, et nous verrons la fois prochaine que c'est faux de parler de mutation d'espèce. Ça, c'est un. Philosophiquement parlant, ça n'a pas de sens. Alors, ça, c'est le langage scientifique qui prend des mots philosophiques sans savoir ce qu'il dit. Ça arrive, hein, de temps en temps, on peut dire ça aux savants. Parce que la philosophie a existé avant la science. Alors, j'ai le droit de dire, écoutez, attention, je ne veux pas employer vos termes, parce que vos termes, ils sont propres à votre science, mais n'employez pas nos termes, parce qu'alors, vous créez une équivoque terrible. Et au fond, quand on a parlé de l'évolution en voyant la transformation d'espèces, je crois qu'à ce moment-là, on emploie un langage philosophique d'une façon indue. On devrait dire simplement, y a-t-il des transformations dans le vivant, dans la nature du vivant, des transformations telles qu'il change la nature du vivant? Je ne dis pas l'espèce, la nature du vivant. Pour faire que ce vivant passe d'un degré de vie à un degré supérieur.
Théologie naturelle par le père Philippe à Saint-Joseph, lui.
Il ne reste plus que deux cours de théologie naturelle. Et la théologie naturelle, il devrait y avoir un cours permanent de théologie naturelle. Hein, vous voyez, parce que je crois que c'est très important pour nous. Ça nous fait comprendre comment la philosophie, au terme, doit tout assumer par rapport à l'existentialisme, par rapport à l'ontologisme, ce qu'il y a de juste. Et ça doit nous donner comme...